Tout à l'heure, j'ai eu encore un dernier combat en vous voyant tous louer. Je me suis dit, mais finalement, tout ce que je vais leur dire, ils le font déjà. Mais je vais quand même vous dire ce que j'ai à vous dire. M'aimes-tu pour la vie, c'est le titre de mon intervention, accueillir et partager une spiritualité de la vie. C'est vrai que j'ai été très touché en 1995 par la lecture de l'Évangile de la vie, un petit livre que Jean-Paul II a écrit pour nous partager ce que j'ai envie d'appeler le commandement chéri du bonheur, cet interdit du meurtre. C'est paradoxal de voir qu'un interdit, je le vois un peu comme une sorte de barrière que des parents mettraient autour d'un précipice pour éviter que leurs enfants y tombent. Eh bien, les enfants peuvent jouer, s'aimer, vivre tranquillement, parce que justement ils sont protégés de l'atteinte à la vie. Commandement chéri du bonheur, qui n'a pas été si bien que ça accepté. Et puis en lisant, en annonçant l'Évangile de la vie, je me suis rendu compte avec une grande joie que cette spiritualité de la vie, j'en avais besoin pour moi-même. Que je n'annonçais pas quelque chose qui m'appartenait, c'était pas si facile, si acquis que cela, de respecter et d'aimer la vie, mais c'était vraiment un travail, et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin. D'abord, je vais aller très vite sur un point qui est le rappel que la vie est au cœur de la révélation chrétienne. De même que peut-être que vous avez chanté des Alléluia, des Hosanna, en découvrant que finalement la louange était au cœur de la célébration, mais peut-être vous les chantiez sans vous en rendre compte. De même, sans doute, ne nous rendons-nous pas compte suffisamment à quel point la vie est au cœur de l'Évangile. L'Évangile est truffé de vie. Qui est Jésus ? Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Verbe de vie, hein, que saint Jean dit avoir contemplé et touché, disant « la vie s'est manifestée, nous l'avons vue ». Il est, dit l'Apocalypse, le vivant. Jésus est le vivant, l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts. Voilà, toutes ces références, je vous les dis pas pour aller plus vite, mais voyez à quel point Jésus est la vie. Pourquoi Jésus est-il venu ? Il faut l'écouter. « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Que veut-il de moi, pécheur ? Il ne veut pas, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Et on voit dans l'allégorie du bon berger, à la fin de l'évangile de saint Jean, que Jésus veut pour ses brebis la vie, il donne sa vie pour les brebis. Il dit aussi « J'ai le pouvoir de déposer ma vie pour la reprendre. » Et il prie pour nous. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à eux, grâce à leur parole, la parole des apôtres et des successeurs des apôtres, croiront en moi afin que tous soient un. C'est ce qu'on vivait tout à l'heure dans cette danse peut-être. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Voilà, on a la vie en nous. Et cette vie que Jésus nous donne, c'est aussi la réponse à une immense soif biblique. Ce livre de vie qu'il ne faut pas quitter, qui est attaché à notre cœur. Et moi, grâce à une effusion de l'esprit, j'ai vraiment lu de A jusqu'à Z, il y a quelques années, la Bible, et j'ai été émerveillé de voir la soif de vie qu'il y avait chez tous nos pères prophètes. Abraham, qui souhaite une descendance, bien sûr, avec tout son cœur, au point même de dérailler en utilisant... sa femme le lui conseille, sa servante Agar, c'est la première mère porteuse. On voit qu'il s'ensuit d'ailleurs une dispute. Et puis finalement, au chêne de Mambrai, il a cette visite de trois visiteurs en Genèse 18, et il a cette promesse de fécondité. Nous sommes ses enfants, grâce à la foi d'Abraham. La vie s'est transmise. Ensuite, Moïse, toute l'histoire de Moïse, c'est l'accouchement du peuple hébreu de la mort de l'esclavage à la vie éternelle, même s'il ne voit pas la terre promise. Moïse, c'est un personnage du Nouveau Testament, puisqu'il est à la transfiguration, présent, bien vivant. Dieu de Moïse n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, dit Jésus, à ceux qui contestent l'idée d'une résurrection. Voilà, il y a des tas de passages magnifiques. Je me disais, est-ce que je leur en lis certains ? On n'a pas le temps, en fait, mais il y a cette histoire symbolique de Jérusalem qui est superbe, si je la retrouve là, et qui... on voit cette vous la retrouverez dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16, où on voit un petit enfant baigné dans son sang, qui n'a pas été langé, qui n'a pas été soigné, etc. Et le Seigneur passe et dit « Vie ». Et l'enfant vit, c'est l'histoire de Jérusalem. C'est notre histoire aussi, le souffle de vie mis sur notre argile. Et aussi la belle allégorie des ossements desséchés en Ézéchiel au chapitre 37, où on voit des ossements qui reprennent vie par le souffle de Dieu, grande, immense armée, c'est nous dans la vie éternelle. J'en viens à Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie. Deux petits paragraphes que je voudrais rapprocher l'un de l'autre. Le premier paragraphe, c'est dans l'introduction, cet appel passionné qu'est cet évangile de la vie, adressé à tous et à chacun au nom de Dieu, et poursuit Jean-Paul II, respecte, défend, aime et sert la vie, toute vie humaine. C'est seulement sur cette voie que tu trouveras la justice, le développement, la liberté véritable, la paix et le bonheur. Et le bonheur. Et quand j'annonce avec les langages du monde le droit à la justice, le respect de toute vie, oui, toute vie humaine, j'ai parfois l'impression de transmettre des sacs à dos d'interdits, de faire violence au fond. Encore hier, j'ai eu un appel désespéré d'une femme qui me disait que sa fille de 40 ans, atteinte de sclérose en plaques, avait résolu d'aller se suicider par un poison donné par des médecins suisses. Et elle me disait au secours. Et je vous demanderai pendant les 5 secondes qui vont venir de vraiment ce que je lui dis, on allait prier pour elle, comment faire pour qu'une femme qui est atteinte de cette maladie évolutive et désespérée aujourd'hui n'aille pas jusque à cet acte de suicide et puisse être accompagnée dignement jusqu'au terme naturel de sa vie. On a l'impression d'imposer des jougs impossibles et pourtant c'est la condition du bonheur. Nous lui offrons ces 5 secondes de penser spécialement pour qu'elle ait des forces, cette jeune femme, cette femme de 40 ans malade et puis sa mère qui s'occupe d'elle pour éviter qu'on ne la conduise jusqu'en Suisse. Et si je l'évoque, c'est aussi parce que j'ai conscience que ce que je vais dire ensuite peut peut-être être choquant pour ceux qui se débattent avec leur vie ou qui ont eu des situations personnelles autour de la question de l'avortement, de l'euthanasie, où ils se sont sentis finalement incompris, désespérés, blessés. Voilà, je voudrais vraiment parler de façon délicate. Je suis conscient, pour avoir accompagné beaucoup de femmes ayant vécu l'avortement, pour coordonner un site qui s'appelle SOS Fin de Vie autour des sujets du deuil, que c'est pas facile. Il suffit pas de dire la vie est belle, fantastique. Certains crient comme Job dans le très beau chapitre de son livre où à un moment donné, il s'écrit, lui qui est un saint homme, alors Job maudit le jour de sa naissance. Que n'ai-je été un avorton tombé d'entre les jambes de ma mère, au moins je n'aurais pas vécu. Donc on peut traverser, nous, vous pouvez traverser ces déréliction. Et j'entendais encore qu'une des personnes qui est dans notre session avait aussi cette grande angoisse, cette grande déréliction, cette grande difficulté à accueillir sa vie. Donc voilà, que ce que je peux dire d'un petit peu facile, eh bien, ne vienne pas blesser. Dans l'Évangile de la vie, Jean-Paul II rappelle cet épisode de la fin de la vie de Moïse, alors que Moïse a été sauvé par des sages-femmes des Hébreux qui ont renoncé à porter atteinte à sa vie, par sa mère qu'il a confiée à sa grande sœur pour que le panier glisse sur le fleuve parce qu'il était menacé de mort par Pharaon, par donc la grande sœur qui a surveillé le panier, par la fille de l'ennemi qui est venue récupérer le panier, qui a été pris de tendresse et de miséricorde pour Moïse et l'a reconfié à sa mère comme nourrice, 5 femmes pour une vocation, peut-être le cas de certains prêtres. Eh bien, ensuite, il a voulu sauver par lui-même avec violence les Hébreux maltraités par les Égyptiens, il tue un Égyptien, il fuit 40 ans au désert et au buisson ardent, il retrouve son Seigneur qui l'envoie en mission faire ce qu'il avait voulu faire avec violence et qu'il fait finalement avec l'Esprit de Dieu qui sera dans sa bouche, malgré la crainte qu'il a. Ce Moïse qui conduit son peuple de l'esclavage, de la mort, jusqu'à la terre promise. Au fond, les plaies d'Égypte, c'est des contractions de notre propre enfantement, jusqu'au pied de la croix où la Sainte Vierge souffre pour nous nous est donné comme mère. Hein, c'est toute notre histoire. Nous sommes tirés du néant pour aller vers la vie éternelle. C'est toute notre histoire, l'histoire du peuple de Dieu. Eh bien, Jean-Paul II nous dit que cette parole adressée à Moïse, que je ne vous ai pas encore dite, « Vois, je mets devant toi vie et bonheur, mort et malheur, la vie tu choisiras. » Je mets devant toi vie et bonheur, mort et malheur, la vie tu choisiras. Et je me suis rendu compte, nous nous rendons compte, et Jean-Paul II le dit, que nous nous trouvons, je le cite, tous au milieu de cet affrontement entre vie et mort. Je ne suis pas un ange blanc de la vie venu parler à des anges blancs de la vie, des anges noirs de la mort qui sont à l'extérieur. Je suis traversé par l'immense combat entre vie et mort à chaque instant de ma vie, et à chaque instant, je suis appelé à choisir la vie. D'où les petits préceptes que maintenant je voudrais partager avec vous. Quelques pistes pour entrer dans une spiritualité de la vie. Je me suis attaché à faire un plan très structuré, je ne sais pas s'il va transparaître. Je vais vous proposer d'abord d'accueillir le réel. Et Jean-Paul II, dans l'Évangile de la vie, nous propose d'entretenir un esprit contemplatif, dans un regard contemplatif. Voilà, d'être présent à ce qu'on fait. La question peut nous être posée, est-ce que je suis recueilli? Est-ce que je suis présent, déjà par mon corps, mes sens, ce que j'ai à la mesure de ce qu'ils sont, parfois limités, la vue, l'ouïe, le toucher, est-ce que je suis présent à mon environnement? Est-ce que je suis, c'est une phrase qui me vient, je pense, souvent je récite un peu à travers, concentré, non pas stressé, de même nature que le Père, c'est pas un blasphème, mais je pense que Jésus, il est concentré, non pas stressé. Est-ce que je suis concentré ou est-ce que là, je vais regarder le SMS, le message que j'ai eu tout à l'heure, est-ce que je vais taper un petit SMS, comme ça je fais d'une pierre deux coups, j'ai le beurre et l'argent du beurre, j'écoute d'une oreille distraite ce qui m'est dit, puis je réponds à quelqu'un, puis mon Père Spi m'a dit, les appels au secours que tu reçois dans ta prière sont les ennemis de ta vocation. Il faut être capable de refuser un appel au secours, me dit-il, pour vraiment que ce quart d'heure de prière que je me tue, dit mon Père Spi, à te demander au quotidien, pour lequel je me bats avec une difficulté terrible, il soit vraiment préservé comme un sanctuaire inviolable. Et donc notre concentration est menacée, le réel est menacé par notre compulsion à Facebook, Internet, Twitter, notre iPhone, dernier cri, etc., etc. Je suis tombé dedans, évidemment. Voilà. Vous le comprenez. Ce regard contemplatif nous est proposé spécialement pendant les vacances, où on peut prier Dieu le Père créateur et s'émerveiller devant la création. J'ai écrit récemment un livre, Animaux dans l'Évangile, et on voit Jésus qui nous dit « Regardez les corbeaux ». Vous regardez les corbeaux? Moi, je regarde, j'aime beaucoup les animaux, mais Jésus nous apprend à regarder la création et à tirer de la création un enseignement sur la bonté du Père et sur aussi la suprématie de l'homme dans la création. Voilà. Entretenir un regard contemplatif pour accueillir. Le deuxième élément de l'accueil du réel, c'est cueillir la grâce de l'instant présent. Ma vie a basculé lorsque j'ai rencontré Cédric, un petit garçon tout lourdement handicapé à Lourdes, qui ne parlait qu'avec les yeux, oui verticalement, non horizontalement. J'avais 20 ans, j'ai été saisi, je dirais, de l'émerveillement de ce que j'appelle maintenant le présent d'éternité. Ici et maintenant, l'immense dignité de cet ami que je découvrais, au-delà de son handicap, la beauté de sa vie, la richesse de sa vie, au-delà du mur que le handicap semblait établir entre lui et les autres par difficulté de communication, qui n'empêchait pas cette communion. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit « Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Hein, » ce présent, j'ai cette image affichée dans mon bureau, Jésus dit aussi « À chaque jour suffit sa peine, demain s'occupera bien de lui-même. Bon, » est-ce que nous sommes ici en ce moment à accueillir l'Esprit-Saint au milieu de nous? En cet instant, le passé, c'est pour la miséricorde. L'avenir, demain, on te reprend ta vie, on ne sait pas. Hein, ne prédisons pas l'avenir. Hein. Demain, je ferai ça. Ouais. Si Dieu veut, si c'est possible, si on n'en sait rien. Hein. Par contre, c'est dans le présent qu'on peut construire. D'où la nécessité d'inviter vraiment dans notre instant présent l'Esprit-Saint, en faisant comme Jésus aussi, qui par rapport à ce temps, se subordonne toujours à son Père. Mon heure n'est pas venue, mon heure est venue. La question, c'est toujours de se dire, voilà, à quoi suis-je appelé à cet instant? Des gens viennent me demander conseil, qu'est-ce que je dois faire sur chaque femme dans un hôpital, est-ce que je dois démissionner, pas démissionner? Moi, je peux les conseiller sur le refus de porter atteinte à la vie, je peux les aider. Mais par rapport à ce qu'elles doivent dire, à la façon dont leur vocation doit s'établir, je dis, est-ce que ton heure est venue? Est-ce que te dit le Seigneur aujourd'hui? Et c'est Jésus qui nous incite à accueillir vraiment au présent les choses. Cet instant présent est souvent beaucoup plus riche qu'on ne le croit. Et le temps présent peut avoir une densité si on le lui donne. Je me souviens d'un monsieur qui était en fin de vie et qui disait que jamais il n'aurait imaginé avoir une telle joie d'avoir un drap propre caressant son menton. Il était vous changez vos draps de temps en temps, hein, comme moi. Quand vous glissez dans des draps propres, c'est agréable, c'est vrai, mais peut-être qu'on ne profite pas autant que ceux qui peut-être n'ont plus que ça. Et ce même homme disait, ma fille, lorsqu'elle venait me voir avant, elle disait « papa ». Et maintenant, quand elle vient me voir, elle dit « papa ». Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et la densité, l'an dernier, quand je suis revenu de Paris, où j'avais fait un témoignage dans une veillée, j'ai retrouvé mon père grabataire. Pendant 6 mois, il était grabataire. J'ai été saisi pendant les 6 mois de sa maladie, à quel point le temps passé avec lui avait une densité vraiment stupéfiante. Le témoignage papa, c'est pas le mien, c'est un autre. Mais j'ai vécu à nouveau avec mon père cette immense surprise de voir que le temps partagé dans la vulnérabilité, finalement, était beaucoup plus riche que peut-être les 80 années, pour moi c'était les 47 années de présence où peut-être on était passé largement à côté l'un de l'autre, pour certains aspects en tout cas, qu'il a pu partager d'une manière magnifique dans sa vulnérabilité. Anne Dauphine Julien, qui a écrit ce livre à propos de sa petite Thaïs, que vous avez peut-être lu, cite le professeur Jean Bernard qui dit « Quand on ne peut pas ajouter des jours à la vie, il reste à ajouter de la vie au jour. » Voilà. Nous sommes capables d'ajouter de la vie au jour dans ce présent d'éternité. Et puis troisièmement, pour accueillir le réel, je vous propose, pardon de l'expression, d'entrer dans une perspective eschatologique. L'eschatologie, c'est les fins dernières. Nous ne mourrons jamais. Le cardinal Philippe Barbarin avait envoyé une lettre de vœux au moment du troisième millénaire, enfin un millénaire que nous verrons de bout en bout. Et c'est vrai que la conscience de l'immortalité de notre âme est stupéfiante quand on y pense et change complètement la perspective de notre vie. On ne peut pas défendre la vie ou accueillir en tout cas le Christ et l'Évangile sans saisir que notre pèlerinage terrestre est bien un pèlerinage terrestre et qu'ensuite il y a cette vie éternelle qui est déjà commencée. Elle est déjà aujourd'hui à l'instant commencée dans les temps nouveaux inaugurés par la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort. Même si on est jeune et qu'on aime la vie, c'est mon cas, je ne suis pas jeune mais j'aime la vie, les bestioles, les rencontres, qu'on a de l'ambition peut-être légitime, etc. Il y a vraiment cette... où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, disent ses disciples à Jésus. Et nous lui disons aussi. Et il nous dit aussi, on aura la messe tout à l'heure, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et moi, au dernier jour, je le ressusciterai. On pourra peut-être le reméditer en communion pour ceux qui pourront le faire tout à l'heure. Accueillir le réel. Ensuite, deuxièmement, m'accueillir, s'accueillir soi-même. S'accueillir soi-même, c'est peut-être déjà, j'enfonce des portes ouvertes, peut-être, se réjouir d'exister. J'ai mon dernier petit garçon, là je suis marié avec Raphaël, on a 6 enfants, une fille, 5 garçons, et le petit dernier, encore il y a quelque temps, je vais vers lui, au pied de son lit, pour lui dire, je lui dis, tu te rends compte que tu existes? Est-ce que tu t'en rends compte? Tu existes. Et j'y pense aussi, tu existes pour toujours. Stupéfiant. Tiré du néant, exister. Même si on a des peines, des malheurs, des souffrances, des douleurs et beaucoup d'autres choses, nous existons, uniques, irremplaçables et impossibles à éliminer. Même le meurtre n'élimine pas la personne. C'est stupéfiant. Et donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose à ressaisir. Mon embryon, dit le psaume 139, tes yeux le voyaient, quand j'étais brodé dans le sein de ma mère. Ça peut nous aider aussi à rendre grâce pour tous ceux qui ont dit oui pour notre propre vie. Tous nos ancêtres, même s'il y a eu de la violence, des choses injustes, nous existons aussi dans toute une lignée, toute une génération. Et Jésus se plaît à répéter dans l'évangile, à annoncer par la généalogie humaine par Joseph, elle est bien sûr adoptive, mais et il note notamment les lieux où il y a eu des crimes, un inceste. C'est noté dans l'évangile, précisément. Nous sommes issus d'une lignée avec parfois des fautes, des blessures, issues de nos générations d'avant, et pour autant nous vivons, et cette vie est un don. Se réjouir d'exister. Ensuite, exister, c'est aussi, d'ailleurs, je reviens au temps présent, se réjouir de son âge. Mon âge est le meilleur âge possible. C'est le jour d'aujourd'hui qui m'est donné. Tant pis pour ces rides, ces cheveux blancs, ma vue qui baisse, je suis astigmate, myope, presbyte, etc. Tant pis pour tout ça. C'est le meilleur âge. Je ne sais pas si ça vous arrive dans le métro, moi, à Paris, il y a des jours où, dès le matin, en me lavant les dents, je n'étais pas dans un jour culture de vie, sale tête, et puis dans le métro, tous les gens sont moches. Je les trouve tous moches, même les jolies filles. Et plus encore d'autres. Et puis d'autres jours, je suis aussi dans le métro, et puis là, je suis bien, je suis dans le Seigneur, je regarde les visages, et qui sont beaux? Tous sont beaux. Les gens un peu âgés ont des rides qui disent des choses, la personne qui quête, etc., je dis, là, quelle allure, et un visage basané, un visage marqué par des choses, et je me dis, quelle beauté. Le premier jour, je me dis, comment Dieu peut-il aimer toutes ces personnes et moi-même? Et l'autre, je dis, c'est magnifique comme Dieu les aime tous. Voilà. Je suis pas support sujet, j'espère pas, non. Se réjouir d'exister, se réjouir de ses talents, se réjouir de ses talents. Si nous arrivions à dire aussi, avec le psaume 139, « Je te bénis, ô Seigneur Dieu, pour la merveille que je suis », déjà 90% des problèmes seraient résolus. Car nous avons du mal, j'ai du mal à m'aimer. J'ai bien aimé l'histoire du caniche mouillé, je me suis tout à fait reconnu. Moi, je me sens pas non plus un homme, je me sens complètement transi dans le masque. Du monsieur qui doit paraître, et donc bas les masques, c'est vrai. Mais je te bénis, Seigneur Dieu, pour la merveille que je suis. Il nous a fait un peu moindre qu'un dieu. Voilà. Et ça veut dire déployer ses talents. La parabole des talents, il y a une petite erreur dedans. Enfin, je trouve. J'ai trouvé. Comment se fait-il que Jésus punisse, dans la parabole, Dieu, le maître, celui qui n'avait qu'un talent? Alors qu'il félicite celui qu'on a eu plusieurs, qu'ils avaient fait fructifier. Dans une dynamique évangélique, on aurait pu imaginer, je ne sais pas, que par exemple, celui qui avait deux talents rende les deux, et puis celui qui en a un en fait trois ou deux, et qu'il est félicité parce qu'il avait peu, mais il a donné quand même le maximum, tandis que le riche, il a tout gardé. Non, ce n'est pas ça. C'est celui qui a un talent. Pourquoi ? Alors, ce que je vous dis n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais je pense que c'est parce que nous sommes appelés chacun à dire au Seigneur, je suis comblé de talent, comblé de grâce et de talent, plutôt que de nous échapper à nos vocations, comme Moïse voulait le faire, appelé à aller sauver son peuple, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier ni d'avant-hier, et quand toi tu me parles, ma bouche est pâteuse. C'est ce que je me dis d'ailleurs, moi, avant de monter sur un podium, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, et j'ai peur vraiment de ce que je suis appelé à faire. Et donc c'est vraiment, beaucoup de nos vocations, on tourne autour du pot parce qu'on croit qu'on n'est pas capable. Ensuite, et heureusement peut-être, vous allez dire, se réjouir de ses limites. Face à vous, vous avez un iceberg, c'est-à-dire un dixième de talent qui s'exhibe, et puis 90% de misère qui me tiennent debout. Sinon, je suis un culbuto. Et d'ailleurs, j'essaye de demander à mon accompagnateur de prier, de je ne sais quoi, enfin, je me confesse, etc. Puis j'aimerais que ça disparaisse, tout ça dont je me confesse toujours. Il me dit, ça te permet peut-être de poursuivre, quoi, de poursuivre un peu moins gonflé de toi-même. Voilà. Se réjouir de ses limites, ça c'est complexe. J'ai conscience là de parler à des personnes ou certains qui vraiment se disent, mais me réjouir de mes limites, mais il m'a pas vu, ou bien il sait pas ce que je vis, ce que j'endure, ce que je souffre, une misère psychique, physique, intellectuelle, morale, dépendance multiple. Voilà. C'est vrai qu'au fond, si nous sommes gonflés de nous-mêmes au point d'être indépendants, il n'y a plus de place pour Jésus. Si on se croit juste, il n'y a plus de place pour Jésus. Le kérigme, l'annonce de la parole, ne peut toucher que des cœurs qui se reconnaissent pécheurs. Et finalement, à Noël, voilà, ce qu'on peut offrir à Noël, c'est ses limites, ses blessures, ça, ce qu'on peut offrir aujourd'hui. C'est tout ça, et on l'a bien vu, vous l'avez fait, pour que le Seigneur vienne prendre cette place. Et d'une certaine façon, cette fameuse culture de la vulnérabilité, qui est la nôtre, nous sommes tellement vulnérables et interdépendants, permet cette communion des saints, permet cette entraide. C'est ce que j'ai vécu un peu à bras ouverts aussi à l'Alliance pour les droits de la vie. Ceux qui ont besoin aussi visiblement des autres pour survivre révèlent, me révèlent que j'ai besoin des autres pour survivre. Même pour me nourrir d'ailleurs, parce qu'essayer de vous nourrir tout seul maintenant avec des sauterelles, là, il n'y en a plus beaucoup parce qu'il pleut, ce ne sera pas facile. On a besoin d'autres pour nous maintenir en vie. Se réjouir de ses limites. Et au fond, la sainteté, je pense que c'est, et c'est difficile, l'accueil de la miséricorde. L'accueil du cœur de Jésus qui se penche sur ma misère. Et si je peux connaître ma misère joyeusement, eh bien Jésus peut prendre cette place et faire de moi un saint. Troisième grand axe, l'accueil des autres. Accueillir les autres. J'ai déjà évoqué l'émerveillement devant l'existence d'autrui et je voudrais vous dire un petit mot de frère Gilles, le saint frère Gilles dont parlent les Fioretti de Saint-François. Je vais vous faire faire un petit exercice d'ailleurs. Frère Gilles avait une réputation de grande sainteté et Saint-Louis, roi de France aussi de son vivant. Et ce roi de France avait grand désir, raconte les Fioretti de Saint-François, de rencontrer frère Gilles dans son couvent du côté de Pérouse. Et en équipage tout simple, le roi de France débarque un jour et sonne au couvent de frère Gilles. En équipage tout simple, et donc les frères vont voir frère Gilles et il y a un visiteur qui souhaite ardemment te voir. Frère Gilles, averti par l'Esprit Saint qu'il s'agissait du roi de France, se précipite. Il s'approche et la lecture sera peut-être plus correcte que ce que j'en dirais. Sans aucune question, sans que jamais ils se fussent vus, s'agenouillant avec une très grande dévotion, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et se baisèrent avec la même familiarité que s'ils avaient depuis longtemps entretenu une grande amitié. Mais durant tout cela, ils ne parlaient ni l'un ni l'autre, mais ils restaient ainsi embrassés en silence, donnant tous ces signes de charité et d'amour. Et après qu'ils furent restés un long espace de temps en cette étreinte, sans dire un mot, ils se quittèrent. Et Saint-Louis s'en alla continuer son voyage et frère Gilles retourna à sa cellule. Alors les frères vont dire, mais c'était qui ce visiteur là que tu ne nous as pas présenté, que tu as si tendrement embrassé? C'était le roi de France. Hein? Le roi de France, tu n'as même pas daigné adresser la parole au roi de France? Réponse de frère Gilles. Mes frères bien-aimés, ne vous en étonnez pas, car si nous n'avions pas pu nous dire une parole l'un à l'autre, c'est parce qu'aussitôt que nous nous sommes embrassés, la lumière de la science divine nous a révélé et manifesté à moi son cœur et à lui le mien. Et ainsi, par une divine opération, nous avons connu ce que je voulais lui dire et ce qu'il voulait me dire beaucoup mieux que si nous avions parlé des lèvres et avec une plus grande consolation. Et si nous avions voulu expliquer de vive voix ce que nous éprouvions dans nos cœurs, c'eût été pour notre affliction plutôt que pour notre consolation, à cause de l'imperfection du langage humain qui ne peut exprimer clairement les mystères secrets de Dieu. Et ainsi, conclut frère Gilles, sachez avec certitude que le roi de France est parti admirablement consolé. Alors je vais vous proposer un petit exercice en 10 secondes, un peu plus. Choisissez un voisin inconnu. Regardez-le dans les yeux sans dire un seul mot. Vous pouvez sourire, etc. Je vais vous dire le top départ. Et essayez de vivre un instant de grande bienveillance. Maurice Zindel dit que dans un éclair de bonté, c'est un prêtre qui a écrit beaucoup sur la personne, dans un éclair de bonté, nous sommes en mesure de révéler à l'autre l'image de sa nativité. Dans un éclair de bonté. Alors, échangez entre vous. Moi, je l'ai fait hier avec le parcours Espérance et j'avoue que le regard de cet inconnu, je ne connais même pas son nom, je n'ai pas adressé la parole, qui m'a regardé pendant 30 secondes avec telle bienveillance, ça m'a fait une grande consolation. Alors, je vous la... Ce matin, j'ai eu un combat en disant, je vais quand même pas leur faire faire ça. Ben, si. Je vais vous le faire faire. Et moi, il faut que je trouve un inconnu, je vais en trouver un aussi. Et donc, ça durera 30 secondes, hein, rassurez-vous. Allez, top départ. On ne dit rien. Je suis désolé, vous vouliez continuer, mais on va s'arrêter là. Je le déconseille pour les devoirs de s'asseoir entre couples. Hein. Si le mari dit « Non, ne t'inquiète pas, il suffit de te regarder dans les yeux, on n'a rien à se dire », il y a un risque que ça clashe. La parole a du bon. Deuxièmement, l'accueil d'autrui, c'est spécialement les plus vulnérables. Spécialement les plus vulnérables. « Je te bénis, Père du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout-petits », dit Jésus en Matthieu chapitre 11. Il dit aussi « Gardez-vous de mépriser ces petits, leurs anges dans le ciel contemplent la face de mon Père ». Il y a une attirance naturelle de l'homme, du chrétien aussi, mais de l'homme par l'homme naturel vers l'autre, vers le plus faible, le plus pauvre, pour y retrouver l'image du regard lui-même de Jésus, et réciproquement. Là, vous avez regardé quelqu'un, et c'était le regard de Jésus, de cette manière, qui a traversé notre échange, si vous avez pu essayer de jouer le jeu avec la grâce de Dieu. Saint Pierre nous dit, Dieu ne fait pas exception des personnes. Et bien sûr, dans la culture de vie, il y a une priorité absolue à la spiritualité du pauvre, à la présence, à notre présence auprès de celui qui souffre. Nous crevons, je meurs moi-même, d'un manque d'écoute. On a un immense besoin d'être écouté, avec bienveillance, pouvoir exprimer ses émotions sans être jugé au sein d'un couple, dans une famille, entre parents et enfants. Et donc cette nécessité d'aller accueillir la vulnérabilité, la faiblesse de l'autre, ses problèmes, ses doutes, tout ça c'est vraiment essentiel pour pouvoir vraiment être un lieu, un outil de consolation et de miséricorde, et réciproquement. Peut-être un petit verre d'eau si je suis prêt à l'étouffement. Ensuite, troisième élément toujours sur la question de l'accueil d'autrui, entrer dans la compassion. Entrer dans la compassion. Jean-Paul II, il y en a un, pardon, à mes pieds, quelqu'un l'avait dit, mais j'étais concentré sur autre chose. Entrer dans la compassion. Jean-Paul II, dans l'Évangile de la vie, nous dit aux parents, mais il le dit à tous, « Parents, enseignez à vos enfants le véritable sens de la souffrance et de la mort. » Et un jour, j'ai dû faire une conférence pour les semeurs d'espérance, « Sens de la souffrance, sens de la vie, point d'interrogation. » C'est majeur dans nos débats. Je ne suis pas en train de vous encourager au dolorisme, à nous complaire dans la douleur et la souffrance, bien au contraire. Mais par contre, l'enjeu énorme et majeur, c'est le regard, le rapport qu'on a à notre souffrance, à notre peine. Est-ce qu'on arrive à croire que notre peine, notre souffrance est compatible avec notre bonheur, ou est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on a l'illusion qu'on peut vivre sans souffrir? Et le monde entretient aujourd'hui, sur le plan aussi des lois et de la politique et de l'idéologie, l'illusion qu'on pourrait éradiquer toute souffrance, et cette illusion est meurtrière et décourageante, notamment pour ceux qui souffrent, c'est-à-dire pour tous, parce que nous souffrons tous. Donc, comment faire pour enseigner à nos enfants le véritable sens de la souffrance et de la mort? Au fond, il y a beaucoup de réponses possibles, il faudrait peut-être y réfléchir en profondeur. Moi, avec Xavier Mirabel, notre président à l'Alliance pour la vie, qui est cancérologue, on se disait, l'enjeu, c'est d'être proche de ceux qui souffrent, déjà, de se rendre proche de ceux qui souffrent, de se rendre proche de ceux qui peut-être vont mourir, et aussi, véritable sens de la souffrance et de la mort, de se rendre proche des personnes qui meurent et des personnes, des corps de ceux qui sont morts. Les rites de deuil sont extraordinairement consolateurs. En être privé est une grande injustice, y compris pour les enfants. Ça peut arriver malheureusement par accident, mais il faut surtout, on ne le fait plus maintenant, mais priver les personnes de l'accès au corps de la personne. Pouvoir toucher celui qui est mort, dont le corps est froid, pouvoir mesurer ce qu'est la mort est essentiel pour la consolation et pour conduire sa vie dans une plus grande consolation. Et c'est entrer aussi dans la compassion que d'accomplir ces rites de deuil, ces rites mortuaires qui étaient d'ailleurs très honorés dans les temps bibliques. Certains juifs, au risque de leur vie même, enterraient les cadavres pour qu'ils ne soient pas laissés aux chiens. Quatrièmement, j'ai évoqué l'accueil du réel, l'accueil de soi-même, l'accueil des autres, la recherche de la vie. Quatrièmement, la recherche de la vie. Et ça, ça passe par une traque dans nos vies, qu'on peut faire dès aujourd'hui, l'esprit de fatalité, l'esprit de mort. Nous sommes traversés par le combat et l'esprit de mort et de fatalité nous menace. quand je dis tout est foutu, tout fout le camp, sur le plan familial, sur le plan politique aussi, l'espèce d'esprit de ratiocinage qui est souvent le mien, eh bien ça c'est un esprit qui est de désespérance. Et du coup on peut faire un petit exercice, je ne vous ferai pas faire longtemps, mais repérer dans nos vies ce qui est sclérosé, ce qui est lieu de mort, les lieux où nous avons l'impression que c'est définitivement perdu et foutu, et on a mis un couvert dessus, c'est croupi, dans l'ordre de l'amour, de la relation. Dans les familles, par exemple, il y a souvent une personne dans les familles avec laquelle la relation est détruite, au point même qu'on en dit toujours du mal. Et moi, quand je rencontre des adolescents ou des jeunes, je leur dis, voilà, je leur parle du respect de la vie, je leur dis, bon, on va commencer par une chose. Dans votre famille, ça peut être dans votre classe, mais je ne le fais pas trop en disant dans une classe, parce que celui-là, il est au premier rang, celui qui est méprisé de tous, et je ne voudrais pas le stigmatiser devant tout le monde. Dans votre famille, il y a une personne dont on dit toujours du mal. On ironise, voilà, on l'a pris en grippe. On l'aime bien quand il est là, on en dit du bien devant lui. Mais dans son dos, on se coalise pour se moquer de lui, de son travers, de ses travers, de son histoire. Hein. Eh bien, la culture de vie, pour vous, ça va être rompre cette fatalité et le bénir, en dire du bien publiquement. On va vous regarder bizarrement dans votre famille si vous dites du bien de l'oncle untel, ou de la belle-sœur, ou de la belle-mère, etc., de celle ou de celui qui est l'empêcheur de tourner en rond, qui est le bouc émissaire de notre famille. En dire du bien, voilà. Donc repérons dans nos vies, et moi je l'ai fait avec ma femme, ce petit exercice, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui dans nos vies, dans nos relations, les gens finalement, le couple peut devenir structure de péché dans l'agressivité vis-à-vis de l'extérieur, la famille aussi, alors que c'est le lieu théoriquement de l'amour. Est-ce qu'on peut repérer ces lieux et essayer de se dire, voilà, j'invite l'esprit de vie à venir revivifier, comme il a fait pour ses ossements desséchés, cette relation pourrie et croupie. Je suis prêt même à faire le premier pas. Ou alors je demande au Seigneur de le faire et l'occasion me sera donnée dans un baiser de la paix ou un autre moment à vraiment manifester, comme on l'a vu pour un pardon avant-hier, oui. Voilà, manifester cette joie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous y invite en disant qu'elle avait appris à, quand elle n'aimait pas les personnes, hein, et qu'elle avait du mal avec certaines personnes, à s'émerveiller devant la moindre trace de vertu qu'on peut trouver dans une personne. Donc prenez votre ennemi, celui que vous détestez, trouvez-lui une petite trace de vertu, vous allez le trouver, hein. Moi j'en ai trouvé une chez une personne, j'avais du mal, trace de vertu, et je m'émerveille devant la moindre, cette petite trace de vertu qui en cache beaucoup d'autres, hein, parce que mon regard est biaisé. Comme Jésus qui refuse de condamner la femme adultère, comme Jésus qui aussi dit à la Samaritaine, tu dis vrai. Il la relève, où est ton mari, je n'en ai pas, tu dis vrai. Car tu en as eu cinq, celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Et il la relève par quelque chose qui est la vérité. C'est beau aussi de retrouver ça chez Jésus. Traquer l'esprit de fatalité. Si vous avez une petite idée, voilà, je vous laisse juste 10 secondes pour réfléchir en me disant, est-ce qu'il y a une relation croupie dans mon cœur sur lequel je peux inviter l'esprit de vie? 10 secondes. Deuxièmement, s'accrocher à Jésus qui est la vie et me référer à lui. Et on peut aussi faire l'exercice de se dire dans nos vies, est-ce que j'ai invité Jésus partout? Partout? Oui, partout. C'est-à-dire, dans les lieux où nous sommes complètement, les lieux essentiels, où souvent on le met à l'écart parce que justement on a peur qu'il s'en mêle. Les couples peuvent comprendre aussi en réfléchissant, ils peuvent le faire ensemble. Quels sont les lieux où on n'a pas invité le Christ? Les lieux aussi annexes. Hein, moi, Raphaël, ma femme, me dit que c'est un peu ridicule ce que je dis là, mais donc je vous le dis, mais si c'est ridicule, vous avez le droit de rire. Moi, je dis parfois que Jésus s'intéresse à la couleur de nos premières chaussettes. Et trop souvent, nous avons l'impression que ce qui est annexe ne le concerne pas. Par exemple, nos vacances, nos loisirs, notre ordinateur ou je ne sais quoi. En fait, tout l'intéresse. Je peux mettre la vie, le Seigneur, dans tout et en tout. Je suis même invité à le faire. Et vous apercevrez, on peut s'apercevoir que les vacances sont des lieux aussi de conflits et de tensions familiales souvent. Si on y invite le Seigneur, vous l'avez fait puisqu'il vous a invité jusqu'ici, ça veut dire que vous l'avez déjà fait pour cette partie de vos vacances. Eh bien, voilà, on peut l'inviter. Je me souviens du Père Marin qui voyant mon épuisement moral, me dit « Comment tu t'endors la nuit ?» Et ma femme lui répondant, « Bah lui, il se couche et ouf !»« Ah ! Tu te couches avec le ouf du païen !» C'est pas comme ça qu'un chrétien se couche. Un chrétien, ça se couche dans le Seigneur. Ça revoit sa journée, ça confie toutes les personnes, ça dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître, tout ce qui t'a été confié, toute ta vie, tu le confies à Jésus, c'est lui qui s'en occupe la nuit, tu ne te couches plus avec le ouf du païen. C'est difficile, j'ai du mal. Se lever aussi, se lever avec la joie du chrétien, les insomnies. Est-ce que dans nos insomnies, nous sommes capables de prononcer le nom de Jésus ? Ce nom, hein, j'ai bien dit le nom de Jésus, le nom qui sauve, celui que Pierre, dans son dénuement, peut prononcer aussi lorsqu'un paralytique est là devant lui. « J'ai rien, je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Hein, » Le saint nom de Jésus, le vivant, a prononcé, s'accroché à lui. « J'ai saisi mon bien-aimé, je ne le lâcherai pas. Je ne le lâcherai pas. » Même dans l'épreuve. Hein, c'est quand on voit nos amis qui, parfois, dans l'épreuve, lâchent le Seigneur. Qu'on puisse travailler ce commandement, cette joie de se dire « Je ne lâcherai pas, même dans l'épreuve, même dans l'agonie, à l'heure de notre mort, devant mon Père en train de mourir, j'étais joyeux de réciter le « Je vous salue Marie » dans la paix, je dis « Dans la paix » et à l'heure de notre mort, et à l'heure de notre mort, et à l'heure de notre mort. » Et il est mort. J'étais avec ma mère et c'était vrai, je me suis dit « Mais tant de fois je récite à l'heure de ma mort en disant « ma mort, je ne mourrai jamais moi. » Humainement, j'ai l'impression que voilà, j'ai envie de vivre, etc. Mais saisir le Seigneur dans ces moments-là et jusqu'à cette heure peut-être bénie de notre mort corporelle. J'aime énormément dans l'Évangile, tout dernier verset de l'Évangile de Saint Jean. Vous connaissez peut-être, il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites et je crois bien que si on les mettait bout à bout dans un livre, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Vous connaissez ce verset ? Je le prends en sens strict. S'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait dans chacune de nos vies, a fait encore hier soir, ici, avec cette liturgie aussi de la demande par l'intercession du bienheureux Jean-Paul II, va faire encore aujourd'hui dans l'Eucharistie, va refaire encore demain, après-demain, chacune de nos vies, il y aurait tellement de tomes à en écrire que ça ne contiendrait pas nos appartements, on n'aurait pas la capacité de stocker tout cela que nous ignorons trop souvent et que nous oublions trop souvent. Cette joie d'avoir le vivant et de s'y accrocher. Et puis, comment rechercher la vie, s'armer d'espérance pour la mission. Je suis souvent désespéré, vous l'avez compris, devant le tsunami des atteintes à la vie sur lequel nous nous sentons, nous, avec d'autres, avec tous ceux qui, comme vous, agissaient bien petits. Et donc, il y a des outils pour la mission absolument indispensables. La vie a déjà gagné. La vie a déjà gagné. Depuis la résurrection, nous sommes dans les temps nouveaux. Nous avons choisi l'équipe de la victoire. Nous en sommes des indignes témoins, parfois nous la renions, nous en la trahison, moi le premier. Mais nous sommes dans ces temps de victoire. N'aie pas peur, petit troupeau, dit Jésus. Voilà. Donc il prend soin des caniches mouillées. Deuxièmement, en chacun de nous et de nos frères, y compris les incroyants, demeure le sanctuaire intime de la conscience. On aura beau nous catéchiser par le mal, et c'est ce qui arrive, je ne vais pas rentrer dans les détails, très souvent, sur bien des points. Un seul point, moi, qui me choque beaucoup, c'est l'encouragement au don de gamètes, par exemple. Donnez vos gamètes pour donner la vie. Cette espèce de mélange, ce scandale qui est que la société, notre État, nous invite à donner nos gamètes comme si c'était un acte de générosité, alors que ça nous coupe de notre paternité, de notre maternité. C'est très violent. Eh bien, le sanctuaire intime de la conscience, une fois que les pierres du conditionnement, de l'illusion, de l'ignorance peuvent être enlevées, détient au plus profond cette loi naturelle du respect de toute vie et de la famille, y compris composée d'un homme et d'une femme durablement engagés dans le mariage. C'est la loi naturelle des croyants et des incroyants. C'est important de savoir. Et troisièmement, pour s'armer d'espérance dans la mission, la miséricorde. La limite absolue posée au mal, disait Jean-Paul II. La limite absolue posée au mal. L'inépuisable miséricorde de Dieu, qui est l'arme fatale contre la mort. Je précise pour la mission que, à mon sens, je parle pour ceux d'entre vous qui sont engagés par le sacrement de mariage, qui ont donc Jésus qui les tient sur sa croix d'une main et de l'autre, que la mission est posée sur le sacrement de mariage. Et donc, il y a une autorité conjugale réciproque d'envoi en mission par Jésus et le Seigneur qui est celle du mariage et qui donne des forces supplémentaires. Peut-être je vois ce mariage comme un catamaran, les deux coques séparées, cool, mais ensemble, elles peuvent aller assez loin au large. Et bien sûr, les célibataires et nous tous, nous sommes aussi envoyés en mission sur le sacrement de baptême. Et j'en viens, pour conclure, à la question finalement beaucoup plus sensible encore de cet interdit du meurtre. Le commandement chéri du bonheur. Essentiel, même s'il est mal aimé et compliqué et difficile pour moi à annoncer. Le jeune homme riche, la première chose que lui dit Jésus dans une des deux versions, c'est « Tu connais les commandements, tu ne tueras pas ». Eh bien, je vous le dis, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas tuer. C'est difficile pour nous, pour vous, pour moi, peut-être, de ne pas tuer. C'est pas simple. Il y a des millions et des millions d'embryons chaque année en France qui sont conçus et supprimés. Mystérieusement et sans que les personnes, je dis mystérieusement par rapport à la conscience, sans que la conscience soit éclairée sur ce sujet. Hein, le commandement de l'interdit du meurtre, c'est un point de départ du commandement de l'amour. D'ailleurs, Jésus dit, vous avez entendu, tu ne commettras pas de meurtre, moi je le vous dis, celui qui se met en colère contre son frère est un homicide. Donc l'engagement de ne pas tuer, c'est un engagement qui nous appelle à aimer. C'est dépendant de notre bonheur. Et Jean-Paul II a courbé sur sa croix, sur sa fatigue, sa blessure et ses séquelles, nous disait au chapitre, au point 29, chapitre 2 de l'Évangile de la vie, « Face aux menaces innombrables et graves qui pèsent sur la vie dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait demeurer comme accablé par le sentiment d'une impuissance insurmontable. Le bien ne sera jamais assez fort pour vaincre le mal. » Point d'exclamation. Et puis il poursuit, vous pourrez le lire, c'est un texte magnifique, il poursuit en disant, c'est alors que le peuple de la vie, le peuple de Dieu, se tourne vers Jésus, son sauveur. Parce que humainement, parfois, ça semble comme impossible. Pour accueillir et annoncer le commandement chéri du bonheur qu'est l'interdit du meurtre, quelques points, quelques enjeux. D'abord, avoir conscience de sa vulnérabilité, je l'ai évoqué, nous sommes capables du pire, pas de présomption. Ensuite, le travailler. Le travailler, c'est-à-dire, aujourd'hui, un chrétien qui n'est pas engagé et dégagé, hein, un chrétien qui est seul est en danger, vous le savez, mais un chrétien qui n'est pas alerté de l'enseignement de l'Église sur le sujet de la vie est aussi menacé face à tout ce qu'il peut trouver sur son parcours quand il vit l'épreuve de l'infertilité, de l'annonce du handicap, d'une fin de vie difficile. Et l'Église nous propose un enseignement extrêmement clair, extrêmement lucide, fondé sur l'anthropologie et la raison, et qui est simplement éclairé par la révélation, hein, c'est des arguments de raison, et bien creuser, travailler. La paix, ça se travaille, le respect de la vie, ça se travaille aussi. Je me rends compte de plus en plus que Jean-Paul II parle des défis inédits imposés par les techniques, et bien que c'est essentiel qu'on le travaille pour annoncer le respect de la vie dès le tout premier commencement, dès la fécondation qui scientifiquement marque le début de notre existence et jusqu'à notre mort naturelle, sans qu'aucune exception ne puisse légitimer qu'on supprime la vie d'une personne. Ça veut dire aussi être prêt à en payer le prix. De même que Jean-Baptiste disait à Hérode qu'il ne fallait pas coucher avec la femme de son frère, ben Hérode, qui aimait bien la conversion de Jean-Baptiste, trouvait ça sympa, discutait avec lui, il l'appréciait, eh bien, il lui a fait couper la tête par séduction des femmes, enfin de deux femmes. Et voilà Jean-Baptiste qui paye le prix de la vérité. Eh bien, nous sommes aussi appelés par des petits martyrs blancs, comme les appelait Saint Maximilien Kolb, eh bien, à renoncer à des avantages de carrière, à de la notoriété, peut-être à être respectés dans notre propre famille, parce que nous serons prophètes de la vie et prêts peut-être à en payer le prix et jusqu'auquel Dieu seul le sait. Dernier mot. Lorsque nous contemplons Jésus Eucharistie, nous pouvons penser à cette visitation qui est en fait un, pardon de l'expression un peu triviale, un test de grossesse. Marie se lève en hâte, et conduite par après l'Annonciation. Et puis elle va vers sa cousine dont elle vient d'apprendre qu'elle attend un bébé, elle qu'on disait la stérile, quelques jours. Elle porte un embryon préimplantatoire. Vrai Dieu, vrai homme. Elle ne le sait pas encore. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Élisabeth le lui révèle par le coup de pied du fœtus de 6 mois. Que me vaut de voir la mère de mon Sauveur, Magnificat. On l'a chanté tout à l'heure. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que la Sainte Vierge pousse ce grand cri à ce moment et chante. Bon, surtout, il y a un témoin qui peut le dire, etc. Mais c'est bizarre à ce moment-là. Enfin, je ne comprenais pas tellement. Et je me suis dit, mais au fond, c'est plus clair si on pense que Sainte Élisabeth, par sa parole, lui confirme qu'elle est enceinte. Lui le confirme. Et j'ai souvent, dans les accompagnements de femmes enceintes, y compris celles qui hésitaient à avorter, qui étaient dans la souffrance, quand je revenais à la question, quand tu l'as découvert pour la première fois, là, il y a beaucoup d'angoisse et de peur, quand vous l'avez découvert au tout début, qu'est-ce que vous éprouviez? Et souvent, très souvent, et encore l'année dernière à Paris, j'ai une conversation avec une jeune fille en grande difficulté qui risquait d'avorter la semaine suivante. Je suis venu, elle était avec son compagnon, elle avait pris le rendez-vous. J'ai posé cette question, là, juste à côté, là, à 100 mètres, et elle m'a répondu, de la joie. De la joie. Voilà, cette joie du Magnificat, devant l'existence d'un embryon préimplantatoire, qui n'a pas figure humaine, qui a la forme d'une petite mûre, on l'appelle une morula, qui a une forme au fond eucharistique. Et quand vous restez le Je vous salue Marie, le fruit de ton sein est béni, le fruit de tes entrailles est béni. Donc, historiquement, c'est à propos d'un tout petit embryon, Dieu et vrai homme. Et maintenant, je peux m'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu, dit le vieillard Siméon. Voilà. Que l'Esprit Saint balaye les propos qui auraient été inutiles. Et aussi, je prie le Seigneur pour qu'il fasse que je vive un tout petit peu quelques miettes de ce que j'ai essayé de vous enseigner. Amen. Je vous remercie.